plus savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Bonjour à tous. Après une série de rediffusions liées à la pandémie de coronavirus, nous reprenons, Elisabeth et moi, le chemin des studios. Pendant quelques semaines, nous allons alterner à la présentation d'émissions spéciales, rendant compte de l'actualité du cinéma et des séries, vous offrant également des portraits de réalisateurs ou d'acteurs dans l'actualité. Cette semaine, je vous emmène dans l'un des lieux les plus mystérieux de France, qu'il est un peu moins tout de même depuis 2015 et la première diffusion d'une série française à succès, classée même parmi les 10 meilleurs de la décennie par le New York Times. Il s'agit du Bureau des Légendes, le service chargé des clandestins, ces agents infiltrés à l'étranger de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France. Bonjour Éric Rochant.
Bonjour.
Vous êtes le concepteur, le producteur, en un mot, le showrunner de la série. Nous vous avions d'ailleurs reçu en studio il y a 5 ans, au moment du lancement du Bureau des Légendes. Depuis début avril, la 5e saison de votre série d'espionnage est diffusée sur Canal+. Cette 5e saison qui marque votre dernière année aux manettes, même si vous restez évidemment producteur de la série. Alors avant de parler avec vous de sa conception et de parcourir les différentes histoires, les différents personnages qui la composent, je voulais savoir, Éric Rochant, ce que vous, habitué à imaginer les histoires les plus compliquées, ce que vous inspire cette crise mondiale de la pandémie de coronavirus. Est-ce que c'est... très, très inspirant, mystérieux, déroutant.
Alors, inspirant, je ne sais pas, et je pense qu'il y a beaucoup, je pense que tous les scénaristes du monde sont en train d'essayer, enfermés chez eux, d'essayer de trouver une solution pour utiliser cette situation dans leur prochain scénario. Et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'être inspirés par ce qui se passe. Je pense que les prochains films ou les prochaines séries qui vont sortir vont devoir, de toute façon, tenir compte du monde tel qu'il est après le coronavirus. Le monde aura changé et ça va être difficile, sauf pour ceux qui font des séries ou des films d'anticipation ou même historiques. Pour tous ceux qui font des films contemporains et qui parlent du monde contemporain, il va être difficile aujourd'hui, en plein confinement, d'essayer d'imaginer, d'inscrire nos histoires dans ce monde d'après le coronavirus. Il n'empêche qu'il va falloir le faire. Et donc, on essaye tous, à mon avis, mais moi aussi, j'essaye de savoir quels sont les invariants, qu'est-ce qui ne va pas changer et qu'est-ce qui risque de changer, dans quel sens. Voilà, donc moi, ça m'inspire en fait deux réflexions. La première, c'est que j'ai l'impression que le renseignement mondial a été pris de court par rapport à ce qui s'est passé en Chine et n'a pas su anticiper l'attaque. Souvent, on parle d'attaque, vous voyez, comme à la guerre du Kippour, le Mossad, par exemple, on lui a reproché de ne pas avoir anticipé l'attaque de cette guerre de 1900. Et donc, Israël a failli être envahi en 2 jours. Bon, donc, là, le renseignement mondial n'a pas su anticiper l'attaque. Et je pense qu'il va y avoir un aggiornamento du renseignement sur la Chine, qui est très opaque. Et manifestement, le renseignement sanitaire va venir s'inscrire à la même place que le renseignement militaire ou le renseignement antiterroriste ou antibactériologique. Le renseignement sanitaire, c'est quelque chose qui nous semble maintenant extrêmement important. Donc ça, c'est une première réflexion. Ensuite, il y a des invariants. La Russie qui essaie de continuer de déstabiliser les démocraties en envoyant des armées de trolls créer des disputes les uns envers les autres, ça c'est invariable. Il y a des choses qui vont changer, des choses qui ne vont pas changer.
Est-ce que vous avez développé du coup une sorte de seconde nature de lire, de décrypter l'actualité, tout ce qui n'est pas forcément toujours dit entre les lignes des articles de presse? Depuis que vous êtes aux manettes du Bureau des Légendes, vous aviez déjà peut-être aussi ça en vous, parce que faut le rappeler, vous aviez déjà, bien avant le Bureau, vous étiez intéressé à l'univers de l'espionnage avec votre film Les Patriotes. Est-ce que c'est ça, une sorte de passion de seconde nature, de réflexion sur la géopolitique, sur tout, les lignes de force qui sont un peu cachées?
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais même avant le Bureau des légendes, mais c'est vrai qu'on a probablement acquis une sorte de gymnastique, des réflexes qui nous permettent de lire les bonnes revues, les bons journaux, d'aller voir sur les bons sites d'internet, peut-être connaître un peu les experts aussi dont on aurait besoin pour écrire, hein, c'est-à-dire les experts en géopolitique, les experts ceux qui s'y connaissent qui connaissent beaucoup très très bien l'Iran, ceux qui connaissent très bien la Russie, ceux qui connaissent très bien le cyber. Bon, on est amené un peu à les identifier. Vous voyez, par exemple, je suis amené pour mes prochains travaux à identifier déjà les experts sur la Chine, vous voyez, parce que c'est la Chine m'intéresse. Donc, on a une seconde nature en termes de savoir à qui s'adresser et qui lire pour essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. En même temps, vous savez, l'imagination est très importante. Il y a 90% ou 85% d'imagination dans tout ce qu'on fait, mais qui repose, en tous les cas, qui s'appuie sur ce qu'on peut lire comme documentation.
Alors explorons, si vous le voulez bien, Éric Rochant, hein, l'univers du Bureau des légendes par le biais de ces personnages emblématiques. Et on commence par un personnage qui est en fait un décor, mais je pense que vous l'avez aussi conçu comme un personnage important. C'est ce bureau, proprement dit, sous les toits de la DGSE, boulevard Mortier, dans le 20e arrondissement de Paris. La visite nous en est faite dans les premiers épisodes de la première saison.
Peu de gens peuvent prendre cet ascenseur. C'est l'unique moyen d'accéder chez nous. Donc si quelqu'un de la boîte vous demande dans quel service vous travaillez, c'est pas la peine de dire que vous travaillez là. Tenez, allez-y. Voilà, le service des clandestins, le bureau des légendes. Voilà, ça c'est votre bureau. Avant, c'était la pièce où les veilleurs qui devaient travailler 24 heures sur 24 pouvaient se reposer. Mais on a décidé de le transformer en bureau pour vous. Tous les soirs, vous devez détruire vos documents dans la choucrouteuse. Ou alors, vous les rangez dans cette armoire, fermée à clé et protégée par un code. Rien ne doit traîner sur votre bureau ni dans la poubelle. Les services de maintenance n'ont pas le droit d'entrer. C'est pareil pour le ménage, donc c'est vous qui nettoyez votre bureau. Tous les numéros sont là. Porte, armoire, téléphone.
D'accord.
Ah, une dernière chose. Vous ne dites rien à personne. Personne n'a à vous interroger. Si quelqu'un vous pose une question, c'est qu'il ne sait pas ce que vous savez. Et s'il ne sait pas, c'est qu'il n'a pas le droit d'en connaître. C'est comme ça qu'on dit. Le droit d'en connaître ou non.
Comme le secret professionnel.
Non, comme le secret défense.
Voilà un extrait d'un des épisodes de la première saison du Bureau des légendes, Éric Rochant. Alors il faut imaginer, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, hein, ces décors, on est sous les toits, il y a une salle de réunion vitrée et puis les agents traitants qui sont devant un écran d'ordinateur et qui sont amenés à parler aux clandestins, aux agents infiltrés hein, qu'ils suivent au quotidien. Alors, ces bureaux, c'est une recréation de l'existant ou c'est sorti justement de votre imagination ?
Alors, c'est sorti de notre imagination, car là, quand même, il fallait rendre les choses un peu sexy, un peu cinématographique. Et donc, de toute façon, je vais vous dire une chose, c'est que s'il existe un bureau des clandestins ou un service des clandestins des GSE, ce que je ne saurais vous confirmer, eh bien, je pense que personne ne peut le voir. Et je pense que même à la DGSE, il y a peu de gens qui auraient le droit d'y entrer, selon, justement, en suivant les règles du cloisonnement. Je pense qu'il y a peu de gens qui sauraient même où ils se situent. Donc, nous avons donc fait jouer notre, donc, nous, qui sommes en dehors de la DGSE, on est quand même très, très mal placés pour savoir à quoi il ressemblerait et où il se situerait. Donc on a imaginé et puis un moyen de rendre ça un peu cinématographique, c'est d'avoir imaginé que c'était sous les toits, avec aussi une salle de réunion entièrement vitrée qu'on appelle le cube et plein de bureaux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout ce lieu, ce département a été entièrement refaçonné pour la saison 5, car il y a eu un changement de directeur et qui a refaçonné, qui a reconstruit un peu les choses à son image, je dirais, qui est celle de la paranoïa et donc de la transparence. Donc tout est beaucoup plus transparent dans la saison 5.
En série, Eric Rochand, avant que vous lanciez le Bureau des légendes, hein, on connaissait des versions américaines de la géopolitique post 11 septembre. Il y a la série d'action 24 heures chrono, série d'action en temps limité, ou bien il y a eu aussi, il y avait Homeland avec une agente de la CIA, Carrie Mathison, un personnage bipolaire et paranoïaque. Le Bureau des légendes ne se réfère ni à l'un ni à l'autre de ces modèles. Enfin, c'est pas justement des modèles. C'est vraiment une série que vous avez voulu très réaliste, c'est parce que ça n'existait pas, justement, ça, on ne le voyait pas, ce que vous montrez, là, ce bureau, c'est presque pas terre à terre, mais enfin, c'est du quotidien, c'est très réaliste, ça n'existait pas à l'écran. C'est pour ça que vous avez voulu la faire.
Oui, enfin, c'est peut-être pas pour ça que j'ai voulu la faire, mais ça a à voir avec ça, parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai voulu faire, finalement, c'est un peu restituer des émotions qui étaient les miennes quand je disais John le Carré. Voilà. À un moment donné, j'ai découvert John le Carré, et je crois même que c'est Arnaud Desplechin lui-même qui me l'avait conseillé. Et en lisant ça, j'ai eu vraiment des sensations et je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir restituer ce type d'émotion, ce type de tension au cinéma. Ce qui n'était pas évident, puisqu'en fait, effectivement, c'est quand même très cérébral, ce sont des gens autour, et c'est très réaliste en même temps, et très cérébral, il y a des scènes d'action, mais il y a beaucoup de tension, de suspense qui se joue autour d'une table, parce que c'est des enjeux de pouvoir, des enjeux de stratégie, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Du coup, c'est vrai que John le Carré, on peut l'opposer à Ian Fleming, d'une certaine manière.
Ian Fleming, évidemment, l'auteur de James Bond.
Voilà, et d'autres auteurs comme Ken Follett, qui sont des auteurs aussi de romans d'espionnage, et qui sont un peu entre les deux. Et moi, voulant restituer les émotions que j'avais eues quand j'ai lu John le Carré, je me suis posé la question c'est de dire, il se passe des choses incroyables dans le monde, il y a des conflits, il y a des oppositions, il y a des gens qui risquent leur vie, et en fait, le monde lui-même offre un spectacle qui n'a rien à envier au spectacle qu'on imagine, ou même qu'on fantasme. Donc, il suffit de restituer ce monde-là, et ça fera spectacle quand même, ça fera divertissement, on arrivera quand même à faire du suspense, mais ce que j'aime bien, c'est l'idée de pas changer le monde dans lequel on inscrit nos histoires, de le garder tel quel, et d'inscrire nos histoires à l'intérieur de ce monde-là, qui n'est pas un monde fantasmé, qui est un monde qui existe. Tout ça uniquement aussi pour que le spectateur puisse croire, peut-être même encore plus, aux histoires qu'on raconte. Hein. Donc en fait, on est des raconteurs d'histoires. Le Bureau des légendes, c'est une histoire, c'est romancé, mais pour que le spectateur y croit, on utilise cette méthode qui consiste à être réaliste.
C'est peut-être aussi ce qui a convaincu la DGSE d'associer son sigle et de vous ouvrir les portes, parce que même si, comme vous l'avez dit, le Bureau des légendes que l'on voit dans la série ne correspond pas forcément au lieu réel que vous n'avez pas vu, mais vous avez été reçu il y a 5 ans, et je crois que vous avez des liens. C'est pas la DGSE qui vous fournit les histoires, mais vous avez été dû obtenir leur accord avant de lancer la série.
Oui, c'est-à-dire que quand on se lance dans une série, vous savez, une série, c'est quand même de la fiction. Chaque année, c'est une heure par épisode. C'est à peu près une heure par épisode. C'est 10 épisodes, donc ça fait beaucoup. Hein, ça fait beaucoup par an. Donc, quand on s'engage dans ce genre d'aventure créative, on ne peut pas s'engager d'abord à la légère, mais on ne peut pas s'engager en n'aimant pas son sujet et en n'aimant pas ce qu'on va raconter et en n'ayant pas du respect pour son sujet et pour ses personnages. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai eu l'intention, on a eu l'intention avec Alex Berger, mon partenaire, mon associé dans Top of the Regard Productions, c'est-à-dire ma boîte de production, on a eu l'intention de les avertir et de leur dire, voilà, on va faire une série sur vous. Enfin, on va faire une série qui se passe à la DGSE. D'une part, parce qu'il fallait pouvoir utiliser leur logo, effectivement, même citer la DGSE, utiliser leur logo, éventuellement même peut-être même filmer leurs locaux de l'extérieur, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Mais surtout, voilà, et au moins le faire avec eux, pas contre eux, en leur disant on va pas se moquer de vous, on va juste décrire votre métier. Et ça, c'est vrai que c'est une démarche qui leur a plu, parce que eux, ce qu'ils ont peur, c'est qu'on dise un peu n'importe quoi sur eux, qu'on les présente soit comme des monstres, soit comme des gens ridicules. Voilà. Et là, du coup, ils nous auraient évidemment pas empêchés de le faire, mais ils n'auraient pas collaboré. Bon, ben là, finalement, ils ont accepté qu'on utilise leur logo. Effectivement, ils nous ont traité avec bienveillance. Ils nous ont accueillis avec bienveillance parce que mon film, Les Patriotes, déjà, ils trouvaient ça intéressant. Et même, j'ai appris à ce moment-là que Les Patriotes, ce film, des extraits étaient projetés aux élèves agents, c'est-à-dire à la formation des agents de la DGSE. Donc, ça veut dire que j'avais quand même...
Vous aviez tapé juste.
ils m'accueillaient avec bienveillance, quoi. Voilà, ils se méfiaient pas trop de moi, mais de toute façon, ils étaient méfiants quand même. Et c'est vrai que quand ils ont vu la première saison, puis les suivantes, ils ont compris qu'on était respectueux et que finalement, on était même admiratifs. C'est vrai, c'est le cas.
Et puis même presque, grâce à la série, des vocations sont nées, hein, et la DGSE peut recruter. Ce n'était pas l'objectif,
Non, ce n'était pas l'objectif, mais le fait est que la série est sortie en même temps quasi que le redémarrage des attentats terroristes en France après la grande vague de 1985. Bon, là, il y a eu cette nouvelle vague avec les attentats contre Charlie Hebdo, l'attentat du 13 novembre, et en fait, la série est totalement contemporaine de ces attaques terroristes. Et c'est vrai que ces attaques terroristes sont des événements qui ont changé un peu l'image aux yeux de l'opinion, l'image des services secrets, car tout d'un coup, on s'est dit quand même, on aimerait bien que nos services secrets fonctionnent bien. On aimerait bien qu'ils anticipent ces menaces. On aimerait bien qu'ils nous sauvent, qu'ils nous protègent de ces types de menaces en anticipant, et c'est le rôle de la DGSE, d'être sur le terrain à l'étranger, hein, parce que la DGSE travaille à l'étranger, donc pas sur le territoire national, et anticipe les menaces, même essayer de les contrer. Donc, tout d'un coup, on a eu envie d'aimer et on a eu envie de faire confiance dans nos services secrets. Tout d'un coup, les services secrets, ce n'étaient pas les barbouzes ou les complotistes. Non, les services secrets, c'était juste ceux qui nous protègent, ceux qui anticipent les menaces. Et donc, voilà, il y a eu cette concomitance le hasard a fait que c'était aussi pendant les attentats que nous avons commencé à travailler sur le droit des gens. Donc voilà, je pense quand même les attentats et l'angoisse que ça a créé, c'est plus ça qui a créé les vocations, je pense.
Alors Éric Rochant, on le disait, donc c'est le Bureau des légendes est une série réaliste, par moments presque anti-spectaculaire. Il y a une vie de bureau, même s'il n'y a évidemment pas que ça, puisqu'on voyage beaucoup à l'étranger. Il y a des batailles d'ego, des jeux de pouvoir. Et puis, parfois, ou peut-être même souvent, c'est le facteur humain qui peut faire dérailler la machine. On en arrive au deuxième personnage emblématique de la série, c'est Malotru, le nom de code de Guillaume de Bailly. Paul Lefebvre, qui est son nom de légende, a joué par Mathieu Kassovitz. C'est lui le moteur de l'action des 4-5 premières saisons. Dans la première saison, il rentre de mission en Syrie et il parle à son agent traitant, Marie-Jeanne.
Alors, comment ça s'est passé ?
Formidable.
Vous voulez pas en parler ?
Si, je vais en parler.
Ça s'est passé quand ?
Ce matin.
Elle a pris ça comment ?
À votre avis ?
Et vous ?
Ouais, une vraie partie de plaisir.
Ça va ?
Je pars.
Tu pars où ?
En Jordanie.
Pourquoi faire ?
J'ai accepté un poste au lycée français d'Amman.
Mais longtemps ?
C'est un remplacement, je sais pas combien de temps.
Paul, tu es en train de me dire que tu pars ou tu es en train de me dire autre chose ?
Les deux.
Vous avez adopté quelle stratégie finalement ?
La plus nulle. Celle où il n'y a pas de stratégie. Celle qui est naze. Triste, juste, on s'arrête, quoi.
Vous avez dit quoi ?
Les trucs les plus nuls de la Terre. Que je ne parvenais plus à comprendre ce que je faisais à Damas. Que je vivais mal mon divorce. Que je ne supportais pas de vieillir, d'être prof. Que ma fille me manquait. Bref, il fallait que je parte et que je devais partir seul.
Et qu'est-ce qu'elle a dit, elle ?
Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise ? Elle m'a insulté.
Ça nous est arrivé.
Elle a un peu pleuré.
Je savais que tu n'allais pas rester éternellement.
Alors Éric Rochon, voilà, c'est un passage de la première saison où on comprend avec cette scène, il y a un double langage en fait entre le dialogue, ce que dit Malotru alias Mathieu Kassovitz à son agent traitant, et ce que l'on voit à l'image. En fait, à l'image, il est toujours amoureux de la femme qu'il quitte, Nadia El Mansour, qui ne dit pas tout évidemment, mais ça va être le moteur de la première saison et puis des suivantes, parce que finalement, il va refuser d'abandonner sa légende en revenant maintenant à Paris. Il va donc mener double, voire triple jeu, allant jusqu'à trahir la DGSE pour traiter avec le contre-espionnage américain, pour traiter avec la CIA. En fait, avec ce personnage de Malotru, Éric Rochant, vous revisitez la figure de l'agent double.
C'est vrai. En fait, au départ, toute série repose sur un personnage qui a une problématique. Toute série repose aussi sur un personnage dont on peut donner le comble. Vous savez, on dit c'est quoi le comble du plombier ou c'est quoi le comble de l'agent secret. Bon, le comble de l'agent secret, enfin, en tout cas, le comble de l'agent de renseignement, c'est quand même de mentir à son service. Parce que c'est quand même les professionnels du mensonge. Mais le mensonge qui se retourne contre soi-même, presque, c'est un comble. Et en fait, c'est une faute originelle qui va payer pendant 4 saisons au moins. Vous voyez, et ça va faire des énormes dégâts. C'est l'aile du papillon, c'est le battement d'aile du papillon qui va faire d'énormes dégâts. Si un agent secret, si un agent du renseignement ment à son propre service, c'est qu'il a effectivement quelque chose à cacher. Cacher quelque chose à son service d'espionnage, c'est quand même extraordinaire. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est le début d'une fuite en avant. Alors là où ça commence à être intéressant, et c'est pour ça que quand on travaille comme ça, ce type de personnage, il faut qu'on soit près de lui, il faut qu'on le comprenne. Pourquoi il ment ? Il ment par amour, il ment pour garder une relation qu'il a commencée sous identité fictive. Et c'est sûr que s'il révélait sa vraie identité à la femme qu'il aime, il est probable qu'il perde l'amour. En fait, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut continuer à exercer son métier et continuer à avoir sa relation amoureuse. Et malheureusement, cette volonté de vouloir accorder, disons, sa cause intime, sa cause privée avec la cause collective qui est de défendre son pays, ça va créer d'énormes problèmes. Mais cette tension entre ces deux causes, la cause privée, la cause intime et la cause collective, on la connaît. Elle est universelle. C'est la nôtre. On est souvent amené à arbitrer entre notre métier et notre famille, entre notre métier et nos angoisses, d'ailleurs, même à dire qu'elle est à être angoissé alors qu'on devrait être apaisé en famille. Voilà. Donc il y a toujours, nous, on connaît tous cette tension entre la cause privée et la cause collective, et ça, c'est quelque chose donc qui est universel. Donc voilà, à travers en fait la problématique de Malotru, c'est la nôtre qui est en jeu là.
Mais c'est presque un personnage d'une tragédie de Racine en fait, hein, entre puisqu'il est écartelé entre son devoir et son amour. Mais du coup, il ne trahit pas la France, enfin, en tout cas le service pour de l'argent, pour se venger par amour. Fatalement, nous, comme spectateurs, on éprouve de l'empathie pour Malotru. Enfin, ça peut être ambivalent, mais du coup, c'est vrai qu'on est en empathie pour ce personnage. On se demande à chaque fois s'il va s'en sortir. Et d'ailleurs, la fin de la quatrième saison, il était donné pour mort. Il était laissé pour mort. On apprend ce qu'il en est à la cinquième saison. C'est un peu lui le moteur de cette... Il y a un cycle Malotru ? Ces 5 saisons, c'est un cycle Malotru ?
C'est très probable, oui, que ce soit un cycle Malotru. Après, on verra bien comment ça se termine. Hein, mais ce qui est sûr, c'est que il y a une fuite en avant, et alors que Malotru veut revenir à un moment donné. Il vit un vrai martyr. Hein, il vit après avoir vécu, avoir touché à la trahison, hein, parce qu'il est amené à trahir son pays pour rattraper sa faute, hein, pour rattraper sa faute vis-à-vis de la femme qu'il aime. Mais ensuite, donc il est amené à travailler pour un autre service, puis ensuite pour rattraper de nouveau la faute qui consistait à trahir, il est amené à vivre un vrai martyr en étant enlevé par Daesh. Et donc à chaque fois, il est amené à vivre de nouvelles choses uniquement parce qu'il essaie de rattraper le coup. Il essaie de retrouver la femme qu'il aime, puis ça n'a pas marché, il est obligé de disparaître dans le brouillard, on le retrouve en Russie. Enfin, et à un moment donné, c'est un vrai parcours du combattant, c'est un vrai chemin de croix. Et ce chemin de croix est lié au fait qu'il y a eu un péché originel. Il y a eu une faute originelle. Alors, la morale de l'histoire pourrait être ne mentez jamais à vos supérieurs, ne mentez jamais aux services secrets. Ça pourrait être ça. Mais après, il faut assumer. Et en fait, ce qui est intéressant, et ce que disait Mathieu Kassovitz sur son personnage, il disait que c'est un personnage éthique. C'est tout à fait vrai. Parce qu'en fait, il assume son mensonge, il veut juste empêcher que les gens en souffrent. Mais faisant ça, il fait souffrir de plus en plus de gens autour de lui. C'est-à-dire que c'est le baiser du tueur, c'est le baiser de la tarentule. À chaque fois qu'il s'approche de quelqu'un, ce quelqu'un va être probablement en danger très vite.
Alors, dans le bureau des légendes, il y a évidemment donc Malotru, Guillaume de Bailly, Paul Lefebvre, joué par Mathieu Kassovitz, mais autour de lui gravitent d'autres personnages, les agents traitants, les autres clandestins, les agents de terrain, les analystes, les hackers, les techniciens, les linguistes. Ce que vous montrez, c'est que le renseignement, c'est vraiment un travail d'équipe, enfin presque de fourmi. Il n'y a pas de petit travail pour récupérer de l'information.
C'est tout à fait vrai, et je pense que les services de renseignement, c'est le repère de l'excellence. Et c'est le repère de l'excellence dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du fouillage de poubelles, de récupération des détritus dans les poubelles à côté d'un bureau, ne serait-ce que pour savoir, donc il faut savoir le faire de manière extrêmement discrète, jusqu'au plus grand spécialiste dans tous les domaines, de la linguiste, les spécialistes en sismologie, du nucléaire, les mathématiciens, les spécialistes de l'intelligence artificielle. En fait, ils vont chercher les meilleurs. Ils essayent vraiment d'avoir les meilleurs. Et quand quelqu'un excelle dans un domaine, ou quand quelqu'un devient le spécialiste dans un domaine, je pense que les services secrets aimeraient bien les avoir dans leur service. Voilà. Donc, c'est sûr, parce qu'on a besoin pour anticiper les menaces et pour défendre le pays, on a besoin des meilleurs, de la collaboration de tout le monde.
میخوای؟
نمیرسی دار قشنگی نه؟ این ایران
دقیقا برای چی کاری؟
گفتم که یه ترانسفورماتور برقی
اگه ندونم چه استفاده میخوای ازش بکنین نمیتونم تقیقه بدن بخوری براتون انجام بدم
من فکر میکردم زلزله شناسی نه جاسوس خیلی سوال میکنی ها
ببخشید حس کردی ترسیده
وقتی زلزله میشه یه ایرونی باید بترسه
من که چیزی نبود
فکر میکنی که قوی تر از اینم بیا
برای اینکه جواب این سوال رو بدونیم باید این تحقیقات رو بکنم نه؟ Passer une journée entière avec Aladdin pour des relevés sur un terrain des Moelle Bourse. Coordonnées à suivre. La cible semble avoir accès aux données pertinentes pour le repérage des terrains candidats à l'enfouissement du matériel nucléaire.
Alors justement, Éric Rochant, pour le Bureau des légendes, vous parliez de l'excellence hein, des profils des agents recrutés à la DGSE. Là, on en a un exemple avec ce personnage Marina Loiseau, interprétée par Sarah Giraudeau. Alors elle est, dans les premières saisons, elle est infiltrée en Iran. Elle est sismologue, et donc on l'a entendu, elle parle farsi, et elle fait du renseignement pour la DGSE. Un profil donc de haut niveau, et avec ce personnage de Marina Loiseau, on parlait de votre revisitation, si je puis dire, des archétypes, mais là, avec Marina Loiseau, vous revisitez l'archétype de l'espionne. Car dans le Bureau des légendes, les personnages féminins, comme donc Marina ou même Marie-Jeanne, hein, qui a un temps va diriger le Bureau des légendes, ces personnages féminins ne jouent pas sur la séduction ou le sexe. Ce sont vraiment des personnages dont les capacités reposent sur l'intellect.
Oui, en fait, la manipulation par le chantage sexuel... c'est quelque chose qui ne fonctionne plus depuis très longtemps, c'est connu. Alors ça peut être dans la palette des possibilités de manipuler, c'est toujours possible. Il y a l'appât du gain, il y a le chantage, il y a la pression, il y a la menace, et puis il peut y avoir la séduction. Mais la séduction, ça peut être aussi bêtement de l'amitié, comme d'ailleurs j'ai montré dans Les Patriotes. Effectivement, mais les femmes sont depuis bien longtemps non plus ce rôle qui leur a été donné des séductrices. Ça ne marche pas du tout comme ça. Ça ne marche plus du tout comme ça depuis bien longtemps. Les femmes ont des domaines d'excellence très importants. sont présentes à peu près partout, dans tous les domaines, même les plus actions, hein, je dirais. Voilà, donc en fait, là, on a affaire à un personnage qui se fait passer pour sismologue, qui est sismologue, mais en fait, la sismologie permet au personnage en fait, d'approcher plutôt des ingénieurs nucléaires, en particulier en Iran. Et en fait, cette formation de Marina Loiseau a probablement été faite exprès pour cette mission. Hein. C'est-à-dire qu'il était prévu depuis longtemps d'envoyer quelqu'un en Iran pour se renseigner un peu sur l'état des avancées sur le nucléaire. Et pour cela, on a trouvé ce biais qui consistait à passer par une sismologue, et donc a priori qui était un peu invisible. C'est un travail de longue haleine qui a préparé cette mission de Marina Loiseau. Il y a d'autres femmes dans la série, hein, comme le personnage joué par Florence Moricaille. Les femmes ont un rôle très important. Peut-être on a un tout petit peu exagéré par rapport à la réalité, c'est-à-dire on a un peu exagéré le pourcentage probable, mais on avait vraiment envie de ça parce que ça nous permettait de montrer à quel point les agents du renseignement sont des gens comme nous, donc hommes ou femmes, et surtout c'est que le niveau d'excellence qu'il leur est demandé en fait n'a rien à voir avec le sexe, voilà.
Ouais, et puis il faut donc maîtriser une langue étrangère, en l'occurrence le farsi pour Marina Loiseau. Donc Sarah Giraudot qui est parfaitement crédible, en tout cas, moi je ne parle pas farsi, mais le débit a l'air parfaitement naturel. Suivant les saisons et les zones géopolitiques, on peut parler russe, hein, c'est le cas de Malotru dans la saison 4 est en Russie, ou du personnage dont on parlera, joué par Mathieu Amalric, Gigia, qui lui aussi est parfaitement russophone. Je voulais savoir, Éric Roche, comment est-ce que vous nourrissez vos histoires? On en a un peu parlé, vous lisez beaucoup donc de la presse ou des revues spécialisées. Est-ce que vous êtes quand même amené à de temps en temps converser avec des agents ou pas du tout? Vous n'avez pas de lien avec des agents soit en retraite, soit encore en active?
Non, à vrai dire, en fait, on a plutôt évité ce genre de situation, d'être soit en face d'anciens agents dont on pourrait jamais vérifier si c'est vrai ou pas, soit d'agents actuels qui parlent un peu sous le manteau. C'est des trucs qu'on n'a pas envie dans lesquels on n'a pas envie de tremper. On a envie de faire jouer notre imagination, de faire jouer notre rationalité, parce qu'on est parti du principe que les agents du renseignement, c'était des gens rationnels. Donc, ils étaient confrontés à des problèmes rationnels. Hein. C'est-à-dire, je te donne un exemple, vous marchez dans la rue, vous pensez être suivi, évidemment, vous êtes un agent, donc vous ne pouvez pas vérifier que vous êtes suivi en montrant que vous êtes un professionnel de la contre-filature, parce qu'à ce moment-là, vous vous grillez. Donc, il faut trouver les moyens de vérifier que vous êtes suivi ou non, sans le montrer à la personne qui éventuellement vous suit. Voilà. Donc ça, il faut le faire donc très discrètement, comme si de rien n'était. Eh bien ça, il suffit d'avoir de l'imagination et d'être rationnel en disant, mais comment je ferais, moi, dans la vie? Je me retournerais pas comme un idiot en montrant que je suis très inquiet d'être suivi. Non, j'essaierais de regarder dans les miroirs. Alors maintenant, comment aussi déjouer une filature? C'est-à-dire comment empêcher quelqu'un de me suivre sans qu'il sache que je suis en train de déjouer la filature? Ben voilà, je prendrais, par exemple, je monterais dans un autobus et puis d'un coup, je déciderais que, ah non, je me suis trompé d'autobus, je vais descendre de comme ça tout d'un coup. Et la personne qui est montée dans le même autobus que moi, ben, elle ne pourra pas faire la même chose que moi, elle sera obligée de rester. Donc, mais je l'aurais fait sans lui montrer que je l'ai fait pour contrer sa filature. Ce genre de technique, on les imagine uniquement en essayant d'être rationnel. Hein. Donc voilà, donc en fait, on n'a pas besoin de rencontrer des agents pour connaître ce genre de technique. Alors évidemment, il y a plein de techniques qui nous échappent, et puis il y a plein de techniques probablement qu'on invente, peut-être même il y en a une ou deux qu'on a inventées et qui seraient bonnes pour eux, hein, parce qu'en fait, nous aussi on travaille, vous voyez. De toute façon, les vrais agents, je vais vous dire, quelqu'un qui vient vers vous et qui nous dit, voilà, moi je suis un espion, je vais vous donner des trucs, on est sûr que c'est pas un espion, que c'est un charlot, car si c'est un vrai espion, il va pas le dire. Et donc, on a sûrement rencontré des agents, mais sans le savoir.
Puis vous organisez quand même une projection de chaque nouvelle saison à la DGSE, c'est ça, au moins du premier épisode?
Ah oui, oui, ça c'est vraiment un moment très important qui nous a malheureusement été, on n'a pas pu le faire cette année, hein, parce qu'on était en plein confinement, mais c'est vrai que d'habitude, on fait une avant-première des deux premiers épisodes à la DGSE, et donc les gens qui travaillent à la DGSE sont tirés, ils ont une sorte de tombola, parce qu'en fait, il y a peu de place, hein, donc ils essayent tous d'avoir des billets pour venir voir, parce qu'ils aiment bien cette série, pourquoi? Parce qu'en fait, ça parle d'eux, et ça parle d'eux de manière réaliste, ça parle de leur travail, et vous savez, les agents de la DGSE ne peuvent pas parler de leur travail à personne, ils peuvent, bon, évidemment, leurs conjoints, conjointes, savent ce qu'ils font, mais ils ne peuvent rien leur dire. Donc, quand ils rentrent du travail et qu'ils ont été angoissés ou tendus pendant toute la journée, ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas dire pourquoi, ils ne peuvent pas dire comment, ils ne peuvent pas dire à quel point. Ils ne peuvent rien dire. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, une série qui, sans rien dire du contenu de leur travail, mais au moins décrit un peu la façon de travailler, l'ambiance, etc., ça leur fait plaisir, car ils peuvent comme ça un peu montrer quelle est leur vie sans rien dévoiler. Et c'est pour ça que je pense qu'ils aiment bien la série.
Alors, vous disiez, Eric Rochant, que vous n'étiez pas en lien, en tout cas pour écrire les histoires avec des agents. Mais alors, les acteurs? Et justement, j'ai posé la question à l'actrice, hein, Florence Loirecaille, qui joue Marie-Jeanne, l'ancienne agent traitant de Malotru, qui a un temps pris la tête du bureau des légendes. Je lui ai demandé, à Florence Loirecaille, si elle avait été tentée, elle, de rencontrer de véritables agents.
Dans la première saison, non. La deuxième, j'ai commencé à avoir envie d'avoir un retour. La troisième, ça devenait de plus en plus nécessaire pour moi. J'avais vraiment envie de savoir si j'étais crédible. Et dans la quatrième, j'ai fait marcher certaines sources pour rencontrer des agents, ce que j'ai réussi à faire. Ça m'a rassurée dans le sens où j'avais besoin qu'ils me disent que j'étais crédible. J'avais tellement peur de mal témoigner pour eux. C'était important d'en avoir un physiquement devant moi et de pouvoir juste lui dire ça. Il y a aussi certains agents qu'on rencontre, enfin, c'est pas s'ils sont agents ou pas, mais tous les ans, on leur propose de regarder les deux premiers épisodes de la saison. Et donc, on a rendez-vous à la DGSE avec 250, 280 agents qui ont été tirés au sort pour assister à la projection. Donc, ça, c'est un moment assez émouvant.
Voilà, Florence Loirecaille, l'interprète du personnage donc de Marie-Jeanne. Eric Rochant, c'est préconisé ça ou pas que les acteurs justement essayent de rencontrer leur modèle?
Non, c'est pas préconisé, c'est pas interdit non plus. Ils y arrivent. Enfin, ça va être vrai qu'ils y arrivent plus que nous. Mais c'est vrai que à cette occasion de cette avant-première qu'on fait à la DGSE, c'est vrai que les acteurs, il y en a beaucoup qui viennent, et bien sont amenés après à rencontrer. D'abord, à signer un nombre incroyable d'autographes. C'est-à-dire que les gens sont très, très fans. Hein, donc, ils proposent de signer des autographes, évidemment en donnant des faux prénoms souvent, en disant bah, « c'est pour Bernard, c'est pour Albert ». On sait très bien qu'ils ne s'appellent pas comme ça. Mais au moins, c'est voilà. Et donc, les acteurs sont amenés, effectivement, peut-être à ce moment-là, à rencontrer éventuellement leur alter ego, de toute manière. Hein, donc, et ça, vous savez quoi, c'est juste très convivial. Très convivial et très sympathique. Et c'est là qu'on confirme un peu l'intuition qu'on avait et ce qu'on montre, ce qu'on essaie de montrer dans le bureau des légendes, c'est que les agents du renseignement et donc les espions, hein, les James Bond du coin locaux, eh bien en fait sont des gens comme nous, vraiment sympathiques, humains, professionnels. Il y en a qui sont très très sérieux, hein, il y en a qui sont vraiment qui sont pas là pour rigoler, qui sont très sévères, mais en fait ils sont tous vraiment comme tous les gens qu'on rencontre, qu'on connaît, qu'on voit, ils sont comme nous. Je crois que c'est la grande, spécificité de cette série, c'est de montrer que dans un milieu aussi mystérieux et aussi fascinant que celui des services secrets, en fait, il est habité par des gens comme nous.
Vous parliez de références littéraires, en l'occurrence, Eric Rochant, au début de cette émission, vous parliez de John le Carré. Mais est-ce que vous aviez quand même des références cinématographiques avant de débuter cette série? Est-ce que, par exemple, les films, c'était plutôt pas les James Bond, mais est-ce que c'est, par exemple, les films de Hitchcock sur l'espionnage ou presque des espions malgré eux, hein, comme La mort aux trousses, admettons, avec Gary Grant? Est-ce que ça fait partie des films qui ont nourri votre imaginaire ou vos références?
Ça m'a probablement, j'étais quand même très cinéphile, hein, donc ça m'a probablement vraiment nourri, les films d'Hitchcock. Il y en a un qui m'a beaucoup, enfin qui m'a quand même pas mal influencé, c'est Le Rideau déchiré, hein, avec Paul Newman. Après, il y a d'autres films qui m'ont beaucoup marqué. Je pense à La Lettre du Kremlin de John Huston, je pense à MI5, La Demande de protection de Sidney Lumet, je pense à L'Affaire Cicéron. Donc, ce sont des films qui sont sérieux sur la question et qui ne sont pas, effectivement, pas évidemment des films d'action, mais des films qui parlent, qui traitent d'affaires d'espionnage. Donc, La Maison Russie aussi, qui était un bon film d'espionnage avec Sean Connery, d'après un roman de John le Carré. Mmh. Ça, c'est des films qui m'ont influencé, qui m'ont juste, qui m'ont dit, vas-y, fais les tiens, vas-y, c'est bien.
Alors, on va passer au dernier personnage que je voulais aborder avec vous dans cette émission, puisque dans cette cinquième saison du Bureau des légendes, le centre de gravité se déporte quelque peu de Malotru vers Gigia. Alors, Gigia, c'est Mathieu Amalric, qui a dirigé un peu le service police des polices hein, de la DGSE et qui est devenu dans cette cinquième saison le directeur du Bureau des légendes. Au tout début, dans le premier épisode de cette cinquième saison, il fait face à une fuite dans la presse. Un article révèle que Malotru a été abattu sur ordre de la CIA avec l'accord de la DGSE.
Comment est-ce que le Figaro a eu ces infos ?
Bonjour, Jeanne. Ça peut venir de chez nous, une sorte de lanceur d'alerte. Ça peut aussi venir des Américains. Trump déteste la directrice de la CIA. Il peut avoir cherché à la déstabiliser. Ça peut aussi venir des Russes.
Ce serait bon signe ou mauvais signe ?
Je sais pas encore. Mais cette nouvelle peut déstabiliser tous les agents sur le terrain. Quand on apprend l'existence d'une taupe, on a peur d'avoir été balancé. Il faut contacter tous nos clandés pour les rassurer.
Ok.
Raymond, on est probablement déjà tous sur écoute. Je serai encore à la DSEC, je soupçonnerai tous ceux qui avaient le droit d'en connaître pour l'Ukraine.
C'est logique. Il est où, Mille Sabor ?
En route pour un deal, à Amman.
Tu peux le contacter quand ?
J'ai un créneau dans 1h45.
Tu utilises ce créneau pour lui parler de l'article du Figaro ?
Je lui dis quoi ?
Oui, Malotru a été déloyal. Non, il n'a pas été assassiné.
Mais Malotru est mort, non ?
Oui, lors d'un accrochage en Ukraine.
Alors c'est Mathieu Amalric hein, qui incarne ce Gigia paranoïaque, hanté par son passé et qui est inspiré en tout cas dans les initiales, même si ça correspond aux initiales de son prénom, mais c'est inspiré d'un autre Gigia et qui est un Américain, celui-là.
James Angleton, qui était un moment à la CIA et qui... a certainement très très bien fait son travail, peut-être un peu trop, jusqu'à vraiment être persuadé que la Russie et le communisme avaient infesté absolument tout aux États-Unis dans ces années 50, et qui, oui, est allé un peu trop loin, psychologiquement et psychiatriquement. Et donc, c'est son surnom, mais il s'appelle en fait Jean-Jacques Albert, d'où J-J-A. Ça, c'est l'humour de la DGSE, de la boîte. Et ça doit l'amuser d'être appelé comme ça. C'est toujours très bien que les autres vous prennent pour un malade ou un parano. C'est très, très bien que les gens aient peur de vous. Comment s'en servir ? C'est là où la paranoïa n'est pas... Voilà, c'est pas une donnée lorsqu'on travaille à la DGSE. C'est plutôt comme essayer de deviner ce qui pourrait advenir, oui. Et comment utiliser une situation et la modifier ou la transformer à son avantage. À son avantage pas personnel, à l'avantage de la boîte. Mais la boîte, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Je crois que c'est même au-delà du patriotisme. Je pense que des gens qui font ce métier sont obligés de croire en des choses. C'est une religion laïque. Qui serait quoi ? Je ne sais pas, oui, des valeurs, peut-être la liberté, je ne sais pas ce que c'est, mais sinon vous tenez pas.
Voilà, Mathieu Amalric, hein, Éric Rochant, formidable Gigia, totalement paranoïaque, qui entend des voix. Et ce qui est formidable avec le Bureau des légendes, et peut-être sans doute avec le médium série, c'est qu'on peut jouer en fait sur le temps, montrer des personnages qui sont hantés par le passé, mais c'est le passé auquel les spectateurs... ont accès, qu'ils connaissent déjà, s'ils ont bien suivi la série depuis le début, depuis les premières saisons.
Voilà, ça c'est la grande spécificité de la série, de la narration en série, c'est qu'en fait on a le temps, vous voyez, on fait 10 épisodes de 1 heure quasiment par an, il y a 5 saisons, bon voilà, ça fait beaucoup d'heures de fiction, et donc c'est vrai que du coup, en fait, on, à la fin, on a été contemporain des souvenirs des personnages. Hein. Mmh. Si les personnages se souviennent de ce qu'ils ont vécu 3 ans ou 4 ans plus tôt, et ben nous, on était avec eux. Et donc, du coup, on peut vraiment palper presque concrètement le temps qui passe. Et le temps qui passe est facteur d'émotion. D'abord, c'est facteur de nostalgie, c'est facteur de mélancolie, c'est facteur de... Les gens peuvent regretter ce qu'ils ont fait, ils peuvent avoir des remords, ils peuvent au contraire regarder leur passé avec nostalgie. Donc tout ça, c'est quelque chose que dans un film, on est obligé de métaphoriser, de rendre palpable à travers des métaphores poétiques. Alors que là, on peut juste le raconter de manière peut-être plus littérale. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant aussi de montrer les changements des personnages à travers le temps, et on peut aussi les confronter à des situations très diverses. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui fait la caractérisation d'un personnage, comme celui de Gigia, par exemple, admettons qu'on le caractérise au départ comme étant, voilà, c'est le parano de service, le mec qui est très très malin, très intelligent, qui soupçonne tout le monde. Et ben peu à peu, on peut retourner un peu les choses. On peut fouiller, on peut rendre les choses plus complexes. Oui, mais s'il est parano, c'est peut-être parce qu'il a des raisons d'être parano. Et donc, ça n'est plus le méchant d'avant. C'est peut-être quelqu'un de beaucoup plus complexe, c'est peut-être même de très attachant finalement. Et donc voilà, ce qui est intéressant franchement, c'est de à travers la série, c'est de pouvoir présenter des personnages, de présenter différentes faces du personnage et de pouvoir changer d'avis sur eux. En fait, les deux trois premiers épisodes, voire les quatre premiers épisodes d'une série hein, qui fait plusieurs saisons, c'est un peu comme les cinq premières minutes d'un film, hein, si on ramène ça aux justes proportions. Alors c'est vrai qu'en général, les cinq premières minutes d'un film, ça peut être très percutant, ça peut être tout de suite vous mettez dedans, ou alors on peut y rentrer lentement. Ça ne préjuge pas de la qualité, ni de la force, ni même de la profondeur du film lui-même.
Et alors vous, du coup, avec cette cinquième saison, vous tirez votre révérence, en tout cas comme showrunner Eric Rochand, même si vous restez producteur de la série. Vous avez confié la réalisation des deux derniers épisodes de cette cinquième saison à Jacques Audiard. Voilà, casting prestigieux s'il en est. Est-ce que vous avez trouvé votre successeur, en tout cas la personne qui prendra votre suite comme showrunner des prochaines saisons?
Oui, on a a priori trouvé des gens qui vont reprendre la série. Je peux pas vous dire qui c'est. C'est pas Jacques Audiard, parce que c'est sûr que il aurait été un bon candidat, et ayant repris le flambeau sur les deux derniers épisodes de la saison 5, il aurait été naturel. Il continue, mais il a autre chose à faire, et ça je le comprends bien. Il a ses films à faire, et probablement des films magnifiques comme il a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà, je peux pas lui en vouloir. Hein. Mais oui, il est très probable qu'il y a des gens qui vont reprendre le Bureau des légendes, au moins pour en faire une nouvelle version, hein, disons un Bureau des légendes 2.0 ou un reboot, comme on dit, ou une upgrade majeure. Mais je pense que oui, ça va être repris. Il y a de très très fortes chances que ça le soit. Quant à moi, ben voilà, moi, au bout de 5 saisons, j'ai trouvé que c'était respectueux, des gens qui avaient bien aimé la série. Et puis, partir avant était peut-être pas très fair de ma part, alors que là, vraiment, c'est moi, des grandes séries que j'aime, hein, c'est The Wire, Les Sopranos, Boardwalk Empire, Friday Night Lights, c'est des séries qui ont fait 5 saisons, la plupart. J'estime que 5, ça va, c'est pas malhonnête de partir au bout de 5 saisons.
Et vous allez réinvestir le champ cinématographique, ou vous avez peut-être d'autres projets encore en cours?
Alors c'est possible. J'ai des idées de séries, j'ai une idée de série surtout, et puis j'ai des idées de films aussi, et donc ça va un peu dépendre des opportunités. Tout est possible. Moi, j'ai pas d'exclusive. Je trouverai mon compte dans les deux formats, et ça va dépendre de quel va se faire en premier, quoi, en fait.
Eric Rochand, merci infiniment. Les derniers épisodes de cette cinquième saison du Bureau des légendes seront diffusés lundi prochain sur Canal+, mais toutes les saisons sont déjà disponibles sur MyCanal. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. Vous nous retrouvez samedi prochain, même heure, même cinéma, pour une émission animée par Elisabeth Le Quéré et consacrée à la grande réalisatrice Sarah Maldoror, pionnière du cinéma panafricain et qui vient de tirer sa révérence.
Tous les cinémas du monde.
Vous avez raté la séance? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.
Salam alaikum.